Et maintenant, nous allons avoir un point de vue éclairant et objectif sur les décisions qui ont été prises pour l'éducation nationale et sur leurs grandes trouvailles vis-à-vis de comment vont se comporter les petits élèves, etc. À toi.
Alors, ce matin, à 6 heures, a fuité le protocole sanitaire pour la réouverture des établissements accueillant des enfants. C'est un protocole qui fait 60 pages, donc je n'ai pas eu le temps de le lire bien, de façon bien approfondie. Mais en le survolant, j'ai quand même recueilli, enfin j'ai relevé quelques absurdités que je voudrais partager avec vous. Alors, première absurdité, ils reconnaissent que les enseignants et les enseignantes et tous les adultes de l'école devront porter des masques, mais pas les enfants, sauf si les enfants eux-mêmes expriment ce souhait. On se demande si ça ne serait pas plutôt du devoir des parents plutôt que de celui des enfants. Bon, si les enfants expriment ce souhait, et ben là, il faudra que ce soit les parents qui leur fournissent des masques. Quand on connaît le prix d'un masque en France, et sachant qu'il en faut minimum 3 par jour sur la journée d'école. Donc on voit bien cette mesure égalitaire, on voit bien qu'en fait ça sera que les familles qui ont les moyens qui pourront équiper leurs enfants de masques, et les autres, les pauvres, et comme d'habitude, ils sont en première ligne. C'est vrai que les pauvres, après tout, ça coûte cher, ça pue, c'est moche, on s'en fout, et dans le 93, on est bien content de s'en débarrasser. Donc ça, première chose. Autre chose, on nous apprend qu'il faudra condamner les bibliothèques et condamner tous les espaces de jeux collectifs. Si un enfant touche un livre, il faudra isoler ce livre pendant 5 jours avant que quelqu'un d'autre puisse le retoucher. Pareil pour une feuille ou un cahier. En fait, pareil pour tout support papier. Donc là, c'est vrai qu'on pourra apprendre aux enfants à chanter les cahiers en feu, la maîtresse au milieu, ça prendra tout son sens. D'autant plus que nous apprenons aussi que sans doute, les enfants ne pourront pas aller à la cantine. Donc, les 10 enfants devront manger dans la classe, en restant chacun assis bien à sa place, sans avoir le droit de se déplacer, ce qui est en cours toute la journée d'ailleurs. Et pendant ce temps, il faut bien que les maîtresses, les maîtres, les adultes de l'école se réunissent. Alors pour eux, il est proscrit de faire des réunions dans des endroits fermés, donc plutôt dehors. Donc on imagine très bien que pendant que ces pauvres enfants seront assis chacun à leur table dans la classe, les enseignants seront dans la cour en train de manger et de faire leur réunion. Merci les enfants, de quoi nous détester. Alors il y a plein de petites choses comme ça complètement absurdes. Bon, évidemment, les parents ont interdiction de rentrer dans l'école. Il sera tout matériel collectif est proscrit. Il sera interdit de se prêter des affaires. Les ballons seront interdits. Les jeux de contact seront interdits. La récréation, il faudra éviter. C'est mieux de faire la récréation dans la classe, sachant que encore une fois, dans la classe, il est dit qu'il faudra que chacun soit à une table très espacée des autres et limiter les déplacements. Donc, en fait, avec tout ça, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, les enfants, là, il y en a plein, ils ont quand même envie de rentrer à l'école. Très vite, au bout de 2 ou 3 jours, l'école, ils vont détester ça. Ça va devenir horrible et ils n'auront plus envie d'y aller. C'est peut-être ça, finalement, la volonté du gouvernement, ou alors nous habituer les enfants à marche ou crève. Enfin là, c'est plutôt être assis ou crève. Et moi, je vois pas trop comment on peut accepter de reprendre dans de telles conditions. Comment on peut accepter en fait d'enfermer des enfants dans des salles comme ça de classe alors que les parcs sont fermés, alors qu'on n'a pas le droit d'aller se promener dans les forêts, alors qu'on n'a pas le droit d'aller sur les plages. Bref, la société carcérale est en marche et je pense que nous, il faut que nous mettions pas en marche, mais en faction, en je sais pas quoi, mais en tout cas qu'on se mette à courir pour la combattre. Alors, j'ai fini mon petit coup de gueule un petit peu désordonné. Il y a peut-être mes petits camarades qui vont rajouter des choses derrière moi. En tout cas, moi, je vous conseille, parents, de le lire. Lisez ces 50 pages, ces 60 pages et imaginez ce que ça va être la vie de vos enfants à l'école dans des conditions pareilles. Et puis, en même temps, c'est aussi très instructif parce que quand on lit que quand on touche un livre ou quand on touche un cahier, il faut isoler ce matériel pendant 5 jours, ça laisse en fait imaginer à quel point en fait ce virus est potentiellement contagieux. Je m'arrête là. Un petit commentaire et puis après on vous mettra une chanson qui nous ramènera dans les années 60.
Je pense que le commentaire est simple. On voit qu'encore une fois, on a un gouvernement très très efficace, très au courant de comment ça se passe dans une école avec des enfants. Donc voilà, je vous demande si vous avez quelque chose à dire de nous appeler au 07 54 10 72 59. Et puis maintenant, on va avoir un peu...
Alors, une dernière petite chose, c'est que je crois que ça a été dit plusieurs fois ici, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, il y a des choses qui sont de l'ordre de la responsabilité individuelle, sachant que la responsabilité individuelle est toujours reliée au collectif. Et que heureusement qu'il y a plein de moments dans l'histoire où il y a des gens qui ont pris des responsabilités individuellement. Donc il ne faut pas avoir peur de ses chefs, il ne faut pas avoir peur de l'État. Si on pense que la chose qu'on nous demande de faire, c'est mettre en danger des gens, il ne faut pas la faire. Si on pense que on va abandonner nos élèves, non, on ne va pas les abandonner. Il y a plein d'autres façons d'aller aider les élèves. Là, en ce moment, l'urgence, elle n'est pas pédagogique. Il y a plein de gamins et plein d'adultes aussi qui sont en train de crever de faim parce que ces connards, ils n'ont pas été... capable d'imaginer comment faire poursuivre les cantines, comment distribuer de la bouffe, comment donner de l'argent à des gens qui, par exemple, payaient 30 centimes le repas parce qu'ils ne gagnent pas de thunes et c'était 30 centimes le repas à la cantine. Et là, donc, ils se retrouvent avec trois gamins sur les bras sans pouvoir aller faire les fins de marché, sans pouvoir aller rien faire. Ils n'ont pas été capables d'envisager ça. Donc, plutôt que d'aller s'enfermer dans les classes à travailler sur des compétences de merde que souvent les adultes ont même pas acquis, je vais prendre une compétence de CM2 qui est par exemple exercer l'esprit critique, exercer l'esprit critique en reprenant les yeux fermés, on l'exerce pas. Et plutôt que de faire ça, on peut avec ses collègues, avec d'autres parents d'élèves, créer des brigades de solidarité populaire et choisir nous-mêmes comment on va aider les gens, en y réfléchissant et en assurant nos propres conditions de sécurité. Voilà, là c'est fini.
Ta main et prends la mienne, nous avons pour nous toute la nuit, on s'amusera quoi qu'il advienne, mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes, mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, prends la mienne.
Vous êtes toujours sur Radio Ornella 107.7. On a reçu un petit poème sur notre boîte à messages Radio Ornella tout attaché @riseup.net et qui parle un peu justement de ces gens qui se retrouvent démunis. Et je crois que c'est dans le quartier du 18e à Paris. Et voilà, c'est une personne qui s'appelle Vincent qui nous a envoyé ça.
La folie s'en fout. La folie s'en foule, erre dans les rues, et nous sommes rejetés, à l'intérieur. Les visages sans fond, hallucinés, sombres, sans but, l'incessant imprimé des cris, inopiné toujours, sursaut. Il n'y a plus de plafond à l'abrutissement des signes manifestes de l'incommodité. Enfermés en nous-mêmes, nous nous débattons. Nous applaudissons aux fenêtres pour voir des semblables à nous et nous applaudissons l'exploitation, la misère et la souffrance mentale. Nous abrégeons les regards et les plaintes. Nous humons l'air saturé des pièces vides. Nos pas amers tournent en lambeaux insipides. Cette même pièce d'un même théâtre d'ombre, immobile. Écrit le 10 Prairial 228.
Et alors maintenant, nous allons vous passer le son qui a été fait par un collectif de soignants et soignantes qui se sont montés pour continuer à dénoncer la casse de l'hôpital public. Parce que c'est vrai que c'est bien beau d'applaudir tous les soirs les soignants et les soignantes, mais ce qu'ils nous disent et ce qu'on dit, c'est que maintenant, va falloir se battre sérieusement. Parce que ce que signifient tous ces morts, ces litanies de morts qu'on entend tous les soirs, qui sont annoncés par M. Salomon sur les chaînes de télévision. Ça signifie, en fait, ça donne un éclairage sur l'état de l'hôpital public. Et ça, c'est notre bien à toutes et à tous. Donc, ce que nous demandent ces soignants et ces soignantes, et là, on va juste vous passer le son, mais en fait, c'est un clip vidéo, c'est si vous pouvez aller sur le lien YouTube « Bas les masques », un appel de soignants à construire un mouvement populaire, et de liker leur vidéo sur YouTube ou Facebook, et de la partager un maximum. Et après, très vite, on se retrouve tous dans la rue, déter, très déter.
Et d'ailleurs, les enfants en parlaient très très bien hier de tout ça. On passe le son.
Macron, lundi 13 avril, il cite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il parle de justice sociale. Nous, on lui dit « bas les masques ».
Bas les masques.
Nous, professionnels de la santé d'horizons divers, bouleversés et en colère, décidons de nous lever et de crier « bas les masques ». Aujourd'hui, nous lançons un appel à construire un mouvement.
Ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté.
On est saturés, on est débordés, on est en pénurie.
Avec la crise sanitaire actuelle, je travaille surtout en EHPAD. On manque de personnel, on n'a pas de matériel adéquat pour gérer les isolements.
Du matériel pour les soignants. Du matériel.
C'est très dur pour tous de porter l'idée que, comme nous n'avons pas été équipés correctement, il est bien possible qu'en allant soigner, on a peut-être contaminé des dizaines et des dizaines de patients.
Ouais, les tests et puis aussi des masques, hein, des masques et des charlottes et des surblouses et tous ces trucs que vous n'avez pas pensé utile de stocker avant.
Aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin.
Vos masques ne sont jamais arrivés. La véritable solidarité qu'on a vue apparaître dans notre hôpital et ailleurs, c'est une solidarité populaire qui s'est levée, qui a fructifié et qui nous permet actuellement de tenir le coup.
Maintenant, il va falloir aller plus loin, partout nous retrouver, nous organiser pour qu'ils rendent des comptes.
L'après risque d'être comme, voire pire, que l'avant.
Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si j'ai
faisais,
si
je regarde, l'argent, il y en a. Regarde, pays, hein. Mais l'argent, y en a.
Les responsables de cette crise sanitaire et de celles qui viendront peut-être, ce sont surtout les gouvernements qui s'enchaînent depuis des années et qui tous mettent en place des réformes qui détruisent notre système de santé.
Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux.
Il y a trop de lits d'hôpitaux en France.
La politique sociale, regardez.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux.
On a besoin au moins de 100 000 soignants dans les hôpitaux et de 300 000 soignants dans les EHPAD. On a besoin de revalorisation de salaire. Les salaires des infirmiers et des aides-soignants, c'est payé une misère, c'est une honte.
On ne veut plus de gestionnaires, de financiers à la tête des fonctions publiques.
Ça suffit, la santé marchande. Non, la santé n'est pas une marchandise.
On veut un changement de la gouvernance de l'hôpital. Voilà le plan de l'hôpital qu'on veut.
J'appelle tout le monde, dès que possible, à sortir dans la rue, à les virer, à rien leur pardonner.
Nous ne nous laissons plus faire.
Je demande à tous les soignants et à tous les professionnels de santé et tous ceux qui avons été traités de rien et qui font vivre le pays aujourd'hui, nous rejoindre.
Les conséquences de votre mauvaise gestion et la politique indécente que vous menez sont visibles dès à présent. Alors bas les masques.
Arrêtez de mentir. Bas les masques.
Venez témoigner, venez parler, venez dire ce qui vous arrive.
Rejoignez-nous sur les réseaux, bas les masques et dans la rue dès que possible.
Soyez avec nous, soutenez-nous et n'hésitez pas à mettre des pancartes aussi à vos balcons pour dire combien on en a marre et combien vous nous soutenez et qu'on sera là dehors après.
Oui, enfin bref, juste une petite précision. La pénurie de masques, c'est un mythe, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en France. Dans tous les autres pays européens autour de nous, des masques, on en trouve, même gratuitement. Et je ne veux pas faire l'apologie des boîtes privées, mais comme elles savent comme elles ont envie que leurs ouvriers reprennent le boulot, juste par exemple Thalès, qui est vraiment une boîte d'ordures, mais malgré tout, même si ce sont des ordures, ils ont quand même commandé des masques. Et eux, ils sont arrivés. Alors pourquoi est-ce que la France n'y arrive pas? Ben, une des raisons, c'est que tous les pays qui commandent et achètent des masques, ils payent tout de suite, rubis sur l'ongle. La France, si elle commande des masques, les gens ne sont payés que 6 ou 8 mois après. Donc on comprend que la France n'est pas prioritaire. Il faut croire qu'ils ont d'autres priorités, parce que par contre, il n'y a pas de pénurie dans les drones, dans les flashballs. J'ai vu qu'on avait commandé 1000 fusils de plus, enfin fusils lanceurs de balles de défense de plus. Voilà, bref, je m'arrête là, et puis maintenant on va passer à la suite.
C'était Radio, on est là sur 107.7 et sur lasfero.net. Ça va être la fin pour nous cet après-midi. On vous rappelle que tous les jours à 12h, il y a les amis de 39.9, c'est une question de température. Précédé, ils mettent en ligne aussi l'émission du journal L'Envolé à partir de midi. Et à 20h, il y a les amis de la radio des Pangolins. Et en attendant, pour la suite de l'après-midi, on vous propose un peu de musique. À demain 14h.